points assez rapidement pour vous les suggérer, pour qu'ensuite ça puisse susciter des remarques, des questions, des critiques éventuellement, maintenant qu'on a eu ce beau bagage derrière nous, on peut se lancer sur de nouvelles choses, par exemple le fameux Daniel Ellsberg, qui d'ailleurs a été emprisonné à nouveau encore récemment, j'ai vu ça. Décidément, il n'arrête pas. Ça, c'était au moment de la guerre du Vietnam qu'il avait fait la couverture de Time, parce que c'était les fameux papiers du Pentagone. Par ailleurs, c'est un théoricien de la décision. Et je vais vous faire très, très simplement le paradoxe d'Ellsberg. C'est un paradoxe fondamental en théorie de la décision. Alors, je vais vous demander des choses très simples. Vous voyez, il y a 10 boules à l'intérieur, là. Il y a 10 boules. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des bleus et des rouges. Il y a 5 rouges et 5 bleus. Donc, vous êtes au courant maintenant. Il y a 5 rouges et 5 bleus. Donc, vous décidez si vous voulez une rouge ou une bleue. C'est indifférent, en principe, hein. Imaginez que vous tirez la boule de votre couleur et que vous gagnez quelque chose. D'accord ? Donc normalement, 5 bleus, 5 rouges. La plupart des gens parient indifféremment sur les bleus et les rouges. Ça peut être éventuellement une question de goût, j'en sais rien. OK ? Maintenant, on va se mettre dans un contexte un peu différent. Il y a des boules à l'intérieur, mais des rouges et des bleus, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Il y a X bleus et il y a 10 moins X rouges. Vous voulez parier sur des rouges et des bleus à nouveau. Normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Ça ne devrait rien changer en réalité. Vous pariez toujours indifféremment sur des bleus et des rouges. Et normalement, c'est ce qui se passe. D'accord ? Vous ne savez pas les proportions, mais ça ne change rien, puisque vous ne savez pas les proportions, vous continuez à faire ce que vous vouliez faire au départ. Maintenant, on présente les deux en même temps. Alors, pareil, vous devez tirer la boule de votre couleur, rouge ou bleu. Maintenant, simplement, le choix, c'est où est-ce que vous allez tirer votre boule ? Dans l'urne numéro 1 ou dans l'urne numéro 2 ? Bah oui, mais pourquoi ? C'est complètement irrationnel, ça vous était complètement différent dans les cas précédents.
Pourquoi tout à coup vous choisissez 1 ? C'est bizarre. Oui, l'intérêt c'est de choisir.
C'est ça. On tient n'importe quel bout en ce moment. Ouais. Il y a quand même une idée sous-jacente, c'est quand même un couleur préférée. Sinon, il y a intérêt.
Éventuellement, oui, bien sûr, oui, vous pouvez avoir une couleur préférée, ça ne me gêne pas du tout, tout à fait. Mais elles sont colorées là aussi, hein. Simplement vous ne savez pas, vous ne les voyez pas, c'est tout. Oui, oui, d'accord, mais dans l'urne numéro 2, elles sont aussi rouges ou bleues, simplement vous ne savez pas dans quelle proportion. Si ça se trouve, vous aimez les rouges et il y a encore plus de rouges dans la 2, hein. Vous n'en savez rien, c'est tout. Il peut même y avoir que des rouges éventuellement, ou que des bleus, on n'en sait rien. Donc là, comme on l'a bien vu, la plupart des gens préfèrent parier avec l'urne 1 plutôt que sur l'urne 2, ce qui est irrationnel. Désolé. Désolé de... Je ne veux pas vous injurier. Hein. C'est irrationnel comme ça. Maintenant, la neuroéconomie va dire « mais non, c'est pas irrationnel. » Donc rassurez-vous, je vais vous sauver par la neuroéconomie. Comme quoi, hein ? Ouais. Désolé, il fallait quand même que j'assume le message. Alors pourquoi c'est pas irrationnel pour le cerveau ? Alors, j'ai dit que j'avais été très rapide, je ne pouvais pas rentrer dans le détail de toutes les expériences comme j'ai fait pour Damasio. Damasio m'a paru un point philosophique extrêmement important. Là aussi, c'est important, mais je vais aller beaucoup plus vite. Simplement, pour vous dire le type de démonstration qu'on fait en neuroéconomie, pour passer d'un jugement implacable en théorie de la décision, ce que vous avez fait est irrationnel, je suis désolé. Mais maintenant, si on met... Et on l'a fait, des stimuli, un peu comme les urnes que j'ai faites là. Donc dans des conditions où il faut tirer une bleue, une rouge, et soit on a l'information sur le nombre de bleus et le nombre de rouges, donc on prend juste un risque, mais un risque en connaissance de cause, soit on n'a pas cette information, mais ça ne devrait pas changer grand-chose si les proportions sont... Enfin, si les probas sont... sous-jacentes sont les mêmes, sauf qu'on n'y a pas accès. On n'a pas l'information. Vous voyez que le cerveau, selon qu'il est confronté à ce que j'ai appelé, je n'ai pas insisté, mais une situation de risque ou d'incertitude, va réagir différemment. Et notamment, quand il est confronté à une situation d'incertitude, il y a certaines régions du cerveau qui vont être davantage activées et qui le sont moins quand il a l'information sur les boules à l'intérieur des urnes. En particulier, quand il est dans une situation où il doit prendre la décision bleue ou rouge, dans une situation donc, où il n'a pas l'information, il y aura le cortex orbitofrontal qu'on a rencontré chez Damasio, déjà, et l'amygdale, qui sont deux grandes aires cérébrales fortement associées aux émotions, qui vont rentrer en ligne de compte. Alors là, c'est une vraie question. Pourquoi l'ambiguïté ? Pourquoi le manque ou l'incertitude, pourquoi le manque d'information va susciter davantage d'émotions et va infléchir ma décision dans un certain sens et va faire que la décision ne va pas être la même selon qu'on est dans l'urne 1 ou dans l'urne 2. Alors, je n'ai pas de réponse à ça, mais tout ce que je peux dire, enfin, j'ai des éléments de réponse, j'ai mes hypothèses, mais je ne vais pas vous les asséner, car ce ne sont que des hypothèses. Mais tout ce que je peux dire de façon un peu positive maintenant, c'est que le cerveau, c'est une leçon intéressante, traite ces deux décisions de manière très distincte. Ce n'est peut-être pas étonnant, mais c'est intéressant de voir comment et pourquoi. Alors que du point de vue de la stricte rationalité, ces décisions, au fond, sont normativement identiques. Ça ne fait pas de différence de choisir dans l'urne où on n'a pas l'info que dans l'urne où on a l'info. Et on l'a bien vu quand j'ai séparé les urnes. C'est quand je les ai mises ensemble, tout à coup, que ça devenait problématique pour vous. Donc, on a une interprétation neuroéconomique, pour aller très vite, du ce qui s'appelle le paradoxe d'Ellsberg, c'est ce qu'on vient de voir. C'est l'existence d'un mécanisme de décision qui est sensible au manque d'informations. Ce mécanisme se manifeste sur le plan comportemental. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport des mécanismes neuronaux et des comportements. C'est ça le but de la neuroéconomie, des comportements intéressants pour la théorie de la décision, pour la théorie économique. Ce mécanisme se manifeste sur le plan comportemental à travers l'aversion à l'incertitude. C'est quand vous avez tous dit, ben non, on va choisir sur l'urne 1. Ça, c'était de l'aversion à l'incertitude. La neuroéconomie permet de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans la prise de décision dans l'incertain, quand on voit les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans l'aversion à l'incertitude. Donc ça, c'est une illustration très rapide du rôle que peut jouer la neuroéconomie dans la compréhension des mécanismes de décision simples en contexte probabiliste. Je vais vous faire une autre petite expérience, très, très rapidement comme ça, également. Une autre forme d'incertitude, c'est l'incertitude qui est liée au temps. Pas seulement aux probabilités, mais au temps. Pas seulement à des loteries, à des boules comme ça, mais au temps. Après tout, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Encore moins après-demain et encore moins dans 10 ans. Et en particulier, si je vous dis un morceau de chocolat dans un mois, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un morceau de chocolat, je ne sais pas si vous aimez le chocolat, mais un morceau de chocolat dans un mois n'a pas tout à fait la même valeur qu'un morceau de chocolat tout de suite. C'est-à-dire que ça, je vous le donne tout de suite, ou je dis, bon, je reviens dans un mois et je vous le donne. C'est pas pareil. On est d'accord. Hein ? Déjà, ça vieillit mal. Non, mais un morceau de chocolat frais, pas forcément celui-là. Non, soyons clairs là-dessus. Si je vous dis bye-bye, vous le recevrez dans un mois, mesdames, vous n'êtes pas satisfaites, parce que je suppose que vous êtes plus gourmandes parce que j'ai vu les cerveaux en action. On a fait ce jeu en neuroéconomie sur le maintenant et dans un mois, avec de l'argent. Alors, rappelez-vous, je vous ai montré le scanner au début de l'exposé. On est allongé, on voit des écrans comme ça. C'est pas super confortable, mais on approche les situations comme on peut. C'est une expérience aux États-Unis, donc c'est d'où les dollars. Aujourd'hui, vous avez 20,28 $, ou dans un mois, vous avez 23,32 $. Vous préférez 20,28 $ aujourd'hui ou 23,32 $ dans un mois? Là, le sujet devait donc prendre son petit bouton et cliquer ce qu'il préférait. C'était l'écran numéro 2. Généralement, il préférait empocher 20,28 $ tout de suite plutôt que d'attendre un mois pour gagner même pas 3 $ ou 3 $. Voilà. Normalement, on choisit, je ne sais pas. Ça dépend du taux d'intérêt, ça dépend de pas mal de facteurs économiques. C'est un choix intertemporel extrêmement compliqué, j'en conviens. Avec un taux d'inflation nul. Négatif même. Maintenant, si je vous dis 20,28 $ dans un mois ou 23,32 $ dans un mois et un jour. Bon, là, vous êtes prêt à attendre un jour de plus, normalement, pour gagner 3 $, ou pas. Vous êtes hyper impatient. Parce que quand vous soyez impatient, quand il y a du présent, je veux bien, mais quand c'est un mois et un mois et un jour, normalement, la plupart des sujets choisissent d'attendre un jour de plus. Donc, un mois, 30 ou 31 jours, qu'est-ce que ça change? On gagne 3 $ de plus en étant un peu patient. D'accord? Alors, vous avez un cerveau avec une partie qu'on appelle les cibles dopaminergiques, c'est le circuit de la dopamine, avec des noyaux, ce qu'on appelle les ganglions de la base, ou les noyaux, comme le noyau accumbens, la substance noire, etc. Vous avez un circuit, qui est le système limbique, en fait, qui est le système qui gère les réactions impulsives et émotionnelles, et qui fait que, quand on prend une décision qui implique une préférence pour le présent. Vous savez que c'est un grand problème pour les économistes, la préférence pour le présent, puisque ça touche des questions comme l'épargne, etc., les retraites. La préférence pour le présent active ces cibles dopaminergiques. C'est ce qui explique plutôt. L'activité de ces cibles dopaminergiques explique, la relation d'explication est compliquée à mettre en œuvre d'ailleurs, la préférence pour le présent. Quand vous avez un choix non impatient, c'est-à-dire quand vous préférez attendre, soit attendre un mois, soit attendre un jour de plus, quand on vous propose le choix entre un mois et un jour de plus, vous avez un système inhibiteur de la réponse dopaminergique, qui est le cortex préfrontal et le cortex frontal, qui va inhiber la réponse d'impatience et qui va vous rendre plus patient. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a un choix qui implique le contraste entre maintenant et quelque chose plus tard, vous avez forcément ce système qui se met en place et qu'il faut inhiber éventuellement pour devenir patient. Tandis que quand vous avez un choix entre deux choses dans le futur, vous n'avez pas ce système qui se met en place. Il se met en place, il devient conflictuel uniquement quand il y a du présent. Quand il y a un contraste entre présent et futur, vous avez une lutte entre les deux systèmes. Quand vous avez un contraste dans le choix entre futur et un peu plus de futur, il n'y a pas de conflit. Donc c'est intéressant, ça, si vous voulez, pour les économistes, parce que ça va permettre d'expliquer ce qu'on appelle les courbes d'escompte temporelles, ou les taux d'intérêt, ou les courbes d'escompte, ou les choix, le fait que quelque chose dans le présent a plus de valeur que cette même chose quand elle est elle a plus de valeur maintenant que quand elle est pensée dans le futur. Alors, le contexte pariétal fait également partie des systèmes qui inhibent la réponse du système limbique et qui donc va nous permettre, cette inhibition va nous permettre de faire un choix plus patient et d'avoir un taux d'escompte plus plat et non pas hyperbolique. Dernier exemple que je veux développer, dernier type d'exemple que je veux développer, j'en aurai terminé pour aujourd'hui, c'est un autre type d'émotion. C'est pas l'émotion du chocolat, c'est pas l'anxiété face à un risque que je ne maîtrise pas, comme dans le cas de l'urne tout à l'heure, c'est les émotions sociales, les émotions qui apparaissent en contexte social, en contexte d'interaction sociale. Vous connaissez sans doute, peut-être par mes collègues et notamment par Marie-Claire, le jeu de l'ultimatum, qui est le jeu le plus célèbre en économie expérimentale. Vous avez deux joueurs. Un premier joueur qui dispose de 10 euros que l'expérimentateur lui a confié, hein, c'est même pas ses 10 euros, c'est 10 euros que l'expérimentateur lui a confié. Et puis sa tâche, ça consiste à partager, comme il l'entend, cette somme de 10 euros avec un autre joueur, le joueur numéro 2. Donc il transfère une partie au joueur numéro 2. Par exemple, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, pourquoi pas. Il fait ce qu'il veut. Seulement, le joueur 2 a une réaction possible, c'est d'accepter ou de refuser l'offre. S'il accepte l'offre, tout va bien, le partage se fait comme prévu par le joueur 1. S'il refuse l'offre, si le joueur 2 n'est pas satisfait de l'offre, de la proposition que lui fait le joueur 1, alors tous les deux perdent et l'argent revient à l'expérimentaliste. Donc, le joueur 1 prend un risque, évidemment, en donnant la somme d'argent au joueur 2, de perdre cet argent si cet argent, ce partage, n'est pas accepté par le joueur 2. Donc, pour résumer la situation, si le joueur 2 refuse l'offre, les deux joueurs ont 0. S'il accepte, tout va bien. Il accepte le partage et c'est comme il a voulu. Alors, on a fait ce jeu en IRM, fonctionnel. Rappelez-vous le scanner de tout à l'heure. De la manière suivante, alors là aussi c'est des écrans, alors là imaginez que c'est un écran avec une croix de fixation pour que le regard soit bien au milieu de l'écran, donc on demande au sujet fixer ce regard, 12 secondes. À chaque stimulus, on lui demande de bien se concentrer. Apparaît la photo de son partenaire, donc le joueur numéro 1, là c'est un joueur numéro 2 qu'on scanne, celui qui reçoit l'offre. Donc là on ne voit pas très bien, c'est une jeune femme qui s'appelle Kelly, qu'on fixe pendant 6 secondes, on révèle le partenaire, ensuite on révèle l'offre que fait la proposition, donc là Kelly est le joueur 1, la proposition que fait ce partenaire, donc on a une offre sur l'écran qui apparaît, donc on avait 10 dollars au départ, Kelly garde 8 dollars pour elle et vous donne 2 dollars, voilà, fait 8-2. Pas très sympa la Kelly. Donc vous avez le choix maintenant, vous avez 6 secondes de délibération pour accepter ou rejeter l'offre de Kelly. J'accepte ou je refuse? Sachant que ce jeu va être répété plusieurs fois, pas forcément avec Kelly à chaque fois. Le sujet décide, là il décide de rejeter l'offre, donc du coup l'écran final c'est Kelly a 0 et vous avez 0 puisque vous avez refusé. Auriez-vous accepté, eussiez-vous accepté, vous auriez eu le partage tel que prévu par Kelly, mais là, cette offre a paru injuste, inique, inadmissible par le sujet sous scanner, après tout c'est lui qui est sous le scanner, hein. Et donc il a refusé l'offre. Donc 0-0. Alors là on va regarder On va regarder ce qui se passe quand le sujet reçoit l'offre et qui prend sa décision d'accepter ou de refuser les offres qui lui sont faites. C'est là, à ce moment-là qu'on va scanner le cerveau et qu'on va essayer d'analyser la réponse cérébrale dans ce moment de délibération en contexte de jeu de l'ultimatum, c'est-à-dire en contexte social, d'économie expérimentale. Alors déjà, comment ça se passe généralement? Vous avez ici les résultats quand vous jouez face à un humain et face à un ordinateur, donc un humain en noir, un ordinateur en blanc. Alors on avait fixé les offres possibles dans ce jeu, parce qu'on essaie d'agréger des analyses sur des points qui nous intéressent, par exemple 5-5. Là, tout le monde accepte, au niveau purement comportemental. Hein, tout le monde accepte 5-5, que ce soit l'homme ou que ce soit l'ordinateur. 7-3, on accepte encore très 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 majoritairement, à 99%. 8-2, vous remarquez que quand c'est un homme qui fait une proposition 8-2, parce que dans ce jeu, c'était soit Kelly, soit un partenaire humain, soit de temps en temps un ordinateur, pour voir le contraste homme-ordinateur aussi, ça nous intéressait. Donc 8-2, ben là, les offres commencent à être sérieusement refusées quand c'est fait par un humain, et toujours acceptées quand c'est un ordinateur. Et 9-1, alors là, elles sont encore plus refusées quand c'est un humain qui garde 9 pour lui et qui vous donne 1. Mais ce qui est marrant, c'est que les gens commencent à s'énerver aussi contre l'ordinateur, qui n'a rien fait, le pauvre. Il est juste programmé. C'est comme ça. Et on va regarder, donc, comme j'ai dit, les activités cérébrales au moment de la délibération. C'est-à-dire que j'accepte, je refuse, qu'est-ce que je fais face à cette offre plus ou moins agréable qui m'est faite. Et on voit que pour les offres qui sont perçues comme injustes et qui sont donc rejetées, on va regarder, là je vais simplement me concentrer sur les activités cérébrales dans ce moment particulier concernant les offres perçues comme injustes et rejetées par le sujet sous scanner. On voit des activités particulières, donc on se concentre sur les activités qui ont lieu typiquement à ce moment-là et dans cette situation-là. Et on voit donc le cortex insulaire, l'insula droite et l'insula gauche, ainsi que le cortex singulaire antérieur, et puis aussi, secondairement, le cortex préfrontal dorsolatéral droit. Alors, très bien, vous me direz, super, bravo. Et donc, oui, ben, j'arrive. Concentrons-nous particulièrement sur l'insula, parce que là, on a quelque chose sur les émotions sociales qui apparaît. Alors, le cortex insulaire, l'activité du cortex insulaire, l'activité de cette partie du cerveau, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appelle l'insula. Vous saviez que vous aviez une insula? Vous étiez tous des insulaires, oui, vous le saviez. Et donc, elle est associée avec la douleur, avec la détresse, avec la faim, avec la soif, avec toutes sortes d'états émotionnels négatifs, avec la colère, avec le dégoût, le goût et l'odeur, avec la nausée. Quand vous vomissez, vous avez cette sensation d'envie de vomir, de nausée, c'est l'insula qui sous-tend cet état proprioceptif particulier. Et donc aussi avec le dégoût émotionnel. Ainsi, quand on vous fait une offre basse, quand on essaie de vous arnaquer, quand on vous donne un dollar comme ça, cheap, c'est proprement la même activité cérébrale que lors du cas de la nausée, au sens littéral. Donc c'est très intéressant de voir que ces états émotionnels sociaux sont en fait non seulement calqués, mais intégrés dans des états corporels profonds, beaucoup plus anciens. Beaucoup plus primitif en un sens. De voir que la phénoménologie émotionnelle sociale a un soubassement corporel extrêmement saillant, primitif, etc. Que finalement nos réactions sociales ont pu récupérer quelque chose de nos réactions corporelles, physiques, primitives. C'est ça que j'essaie de dire. Donc, les émotions sociales sont un langage du corps, un langage très vieux évolutionnairement. Rappelez-vous, j'avais fait un point d'introduction sur le caractère évolutionnaire des émotions sociales. Alors pour conclure, car il faut que je conclue rapidement pour vous laisser le temps de masticoter, donc, voire de me disséquer éventuellement. La neuroéconomie met selon moi en évidence des mécanismes d'alarme, en tout cas sur les derniers jeux que j'ai montrés, d'alarme sociale dans le cerveau. Je vais vous donner un dernier exemple complètement ridicule et qui va être justement l'illustration de ce point. Un exemple concernant l'exclusion sociale, l'ostracisme, mais alors pas dans un sens horrifique, pas l'exclusion sociale telle qu'on la connaît dans nos sociétés ou dans d'autres, mais un truc ridicule. Alors a fortiori, reportez ce truc ridicule que je vais vous montrer sur des vraies situations profondes, compliquées d'exclusion sociale et vous verrez. Alors là, on est loin de l'exclusion sociale, non, vous me direz, non, pas vraiment. On fait rentrer les sujets dans le dans notre labo, enfin c'est pas le mien en l'occurrence, dans un labo, et on leur dit, vous allez jouer à un jeu, vous voyez, avec ces deux oiseaux là. Vous voyez, il se passe la balle. Donc installez-vous derrière l'écran, puis on prend le scanner. À un moment donné, ils vont vous passer la balle, hein, donc attendez. Un quart d'heure, il ne se passe rien comme ça. Donc on ne va peut-être pas faire un quart d'heure, hein, mais... Donc là, vous êtes là, hein, en quelque sorte, vous attendez qu'on vous passe le ballon, là. Ben, vous pouvez toujours attendre. C'est frustrant, non? C'est énervant. Ok. Alors imaginez maintenant, là, je n'ai pas l'animation, mais imaginez que... il rentre, et puis qu'effectivement, à un moment donné, quand même, il a été patient, on lui passe la balle. Un coup, deux coups, il joue comme ça, et il est content, quand même. Puis finalement, non. Faut aller. Bye bye. Même pas bye bye, rien. Aucun signal. Ils arrêtent de jouer avec lui, et il attend la fin du jeu. Alors généralement, quand les sujets sortent de cette expérience, qui dure pas très longtemps, 20 minutes, un quart d'heure, comme ça, ils sont déprimés. C'est marrant, hein. Ben non, c'est pas drôle, mais ils sont absolument dégoûtés. Vous savez, on paye les sujets, hein, pour leur temps. Je vous invite d'ailleurs à participer à des expériences. Et là, ils veulent même pas d'argent. Ils s'en vont, ils disent pas au revoir. Quand ils ont été dans la condition où ils ont été exclus du jeu, parce que c'est une des conditions, ils sont absolument dégoûtés. Les reports sont très négatifs. Ah, c'est quoi cette expérience? C'est horrible. C'est rien d'horrible. C'est pas... Juste, c'est de l'ostracisme. T'as pas été de ceux qui ont été joués avec moi. C'est tout. Imaginez l'école, les enfants, ils n'ont pas voulu jouer avec moi. Toute cette vieille sensation. On la reproduit, là, exprès. Donc c'est de l'exclusion sociale de simple. Alors ceux qui ont fait cette expérience ont mis en évidence les activités cérébrales qui étaient saillantes au moment de non-inclusion dans le jeu, ou pire, d'exclusion du jeu. Et... C'est donc Naomi Eisenberger, Matthew Lieberman et Kipling Williams, qui est le psychologue qui a inventé ce jeu. Alors pourquoi Kipling Williams, je raconte juste cette anecdote pour terminer. C'est un psychologue australien et qui était donc à Melbourne et qui était dans un grand parc et vous savez, il jouait au frisbee. Et puis le frisbee a déraillé, il s'est mis sur son chemin comme ça. Il l'a relancé aux joueurs qui jouaient et puis sans prévenir, ils l'ont inclus comme ça dans le jeu. Donc ils ont joué à trois un certain temps. Et puis après, ils ont continué à jouer tous les deux, mais sans le prévenir, sans lui dire au revoir, sans le remercier, ni rien. Et il s'est senti très, 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 très mal, bizarrement. Il s'est dit, mais pourquoi, moi qui suis psychologue, je me laisse aller à des émotions comme ça? Donc il a reproduit en labo, il a voulu expliquer ce qui se passe, quel était ce sentiment qu'il avait. Ce sentiment, il a un nom très simple, ça s'appelle de la douleur. L'activité cérébrale qui est fortement impliquée dans le rejet social à l'intérieur de ce petit jeu que je vous ai montré, c'est le cortex singulaire antérieur qui est associé tout simplement au traitement de la douleur physique, et c'est vraiment, dans un sens non métaphorique, qu'on peut parler. Comme tout à l'heure, je parlais du dégoût face à l'injustice, dans un sens très littéral, parce que c'était des mécanismes de nausée qui sont impliqués dans la gestion, dans la réaction à l'injustice sociale. Et bien là, c'est des mécanismes de douleur extrêmement primitifs qui sont impliqués dans la réaction à l'exclusion sociale, même dans un cas extrêmement trivial, banal, comme celui que je viens d'illustrer. Alors la leçon principale, c'est la suivante, et c'est ma conclusion. Il y a des gens qui se méfient de la neuroéconomie. On parlait tout à l'heure de certains chercheurs ou éthiciens connus qui pensent que la neuroéconomie cherche à manipuler. Non. Moi, je pense que ça sert à mieux comprendre les mécanismes de notre cerveau dans toute sa complexité, et en particulier comment les émotions contribuent à des décisions optimales, on l'a vu avec Damasio, et comment le cerveau humain a développé ce que j'appelle donc des systèmes d'alarme qui permettent en réalité de maintenir la coopération, la coordination et la régulation sociale. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas par hasard que ce qui a été sélectionné comme mécanisme cérébral dans les cas d'exclusion sociale ou d'injustice soit des mécanismes extrêmement primitifs comme la nausée ou comme la douleur, car ce sont des situations extrêmement dangereuses pour nous. Et il nous faut donc des situations d'alarme simples, et les émotions servent dans le monde économique, dans le monde social, à donner cette alarme, en quelque sorte. Donc ça, c'est ma conclusion sur comment connecter aussi... les recherches neuroéconomiques avec une meilleure compréhension de la société et de ce qui s'y joue en termes socio-économiques. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Alors, s'il y a des questions, j'y réponds volontiers avant de partir. Monsieur, donc...
Je vais vous le dire dans 5 minutes.
Je reviens. fait de l'ordre.
Ouais.
Ce jeu qui avait été fait.
Ah oui, c'est un vieux jeu, ça. C'est voilà, sur la licence, vous voulez dire.
Voilà. C'est ce comportement, cette manipulation, cette analyse de comportement est assez intéressante.
Alors on peut plus refaire ça maintenant. Hein, mais, soit ils avaient essayé dans une émission télévisée récemment, mais...
Voilà, on devait citer l'ordre. Ouais. Or, je ne sais pas, en même temps, ça faisait penser un peu à ça, parce que ces gens-là n'avaient pas forcément de l'émotion, la partie émotionnelle du cerveau qui devait être un peu en difficulté.
Parce oui, j'imagine. Parce
que c'est quand même assez extraordinaire. Ça fait penser au comportement plus récent ou en matière militaire, par exemple, c'est un comportement qui sont insensibles de ces mêmes personnes qui, à un autre moment, seront complètement hors bout. Autrement dit, c'est quand même une complexité extraordinaire, cette analyse du cerveau, sur le comportement, sur la façon dont on peut manipuler ou diriger ou orienter l'action. Alors, ça peut être dans l'économie, ça peut être vrai en matière de comportement social, asocial.
Ce qui manipule, là, c'est le contexte, c'est-à-dire le contexte dans lequel on plonge les individus. Ils se trouvent dans des contextes sociaux dans lesquels ils sont éventuellement manipulés. Ce n'est pas le fait de voir le cerveau qui manipule les individus, c'est simplement le fait qu'ils sont plongés dans un contexte, et éventuellement, on peut voir les réactions sur le cerveau de cette manipulation sociale. Dans le cas, effectivement, dans le cas de l'expérience dont le nom m'échappe, mais qui est très célèbre, le Milgram, voilà, sur le fait d'infliger des décharges électriques sur une base complètement arbitraire et un prétexte qui est... Voilà. Par simple obéissance ou conformité à l'autorité, d'infliger des tortures à des gens. Les sujets sont clairement manipulés à le faire, mais on n'a pas manipulé leur cerveau, en un sens. On peut voir... Alors, on ne l'a jamais fait en IRM, hein, cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quels mécanismes cérébraux ont permis aux gens d'aller faire ces choses-là. Mais il y a plein d'exemples, alors ça c'est très spectaculaire cette expérience, mais il y a plein d'exemples de mise en conformité avec l'autorité à un niveau plus bénin qu'on fait tous les jours. Le respect de la hiérarchie, alors qu'on n'a pas forcément envie toujours. C'est difficile d'être une tête brûlée. C'est plutôt l'inverse qui est quasiment un comportement exceptionnel en fait. La résistance à l'ordre que la conformité à l'ordre. Alors là évidemment c'était une telle conformité particulière que ça en devient paradoxal, mais c'était précisément le point. Ce qui est plus compliqué, c'est de ne pas se mettre en conformité avec son environnement et de résister. Et là, quels mécanismes sont en jeu? Franchement, il y a peu d'expériences ou pas, à ma connaissance, sur ces choses-là. C'est-à-dire que les expériences en neurosciences cognitives, en neurosciences sociales et en neuroéconomie sont récentes et n'ont pas couvert toutes les possibilités. Et on est allé sur quelques points jugés essentiels, ou d'ailleurs, ils ne sont pas forcément essentiels, c'est simplement les premiers points qu'on a faits. Il y a peut-être des choses plus essentielles à faire, comme comprendre pourquoi les individus se conforment à un ordre social, effectivement. C'est une très bonne question. Oui. Mais je n'ai pas de réponse par défaut de données, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres demandes?
Est-ce qu'on peut passer d'une étude donc qui est individu par individu, qui est pour chaque individu, donc sur les réactions de chacun, et comment passer à des études de cohorte, c'est-à-dire à des phénomènes de groupe.
Oui, ça c'est une bonne question.
Est-ce qu'on peut faire la même expérience, mais à des groupes et voir comment ça réagit?
Quand vous dites des groupes, c'est parce que vous pensez des grands nombres ou vous pensez mettre des groupes ensemble?
Au départ, pas forcément des grands nombres, parce que
des grands nombres, c'est
vrai que comment on peut faire des expériences sur des très grands nombres.
Ouais, voilà.
Avec une sécurité de l'expérimentation qui soit significative.
Alors déjà, on peut parler de deux choses. Alors, déjà, il y a la question du nombre des sujets qui sont impliqués dans les expériences. Alors, vous voyez, en éco-XP, ça peut être des centaines. Si on utilise certaines méthodes de terrain, ça peut être des milliers. Là, on n'est même pas à deux dizaines sur nos expériences. Donc, on a très peu de données, on a très peu d'individus qui sont impliqués dans les expériences. Parce que c'est long, parce que c'est coûteux, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas mobiliser les machines des hôpitaux, et aussi parce que forcément, ça n'a pas forcément beaucoup de sens d'aller plus loin, parce qu'on a les résultats au niveau statistique qu'on veut déjà à partir de 15-16 sujets, quand on a un résultat. Donc on peut s'arrêter là sans engager des coûts inutiles. Maintenant, il y a une autre possibilité de comprendre votre question, peut-être que c'était celle-là que vous vouliez pointer, qui est de tester des groupes ensemble et pas simplement un individu isolé. Je crois que c'est ça que vous vouliez dire. Alors là aussi, on ne peut pas mettre 10 scanners en réseau. On peut en mettre deux, trois. Ça s'appelle de l'hyperscanning. Et on l'a fait, quand c'était possible. Enfin, certains l'ont fait, plutôt. Aux États-Unis, en l'occurrence, où ils ont même mis des scanners dans des hôpitaux à l'autre bout du pays, mais ils ont synchronisé les choses, de sorte qu'il y avait un sujet qui jouait un rôle et un autre qui jouait un autre rôle. Alors, évidemment, ça serait intéressant de généraliser à plus que deux et de voir, surtout dans des tâches. Parce que là, on teste des choses comme la coopération, comme l'altruisme, comme les émotions face au partage, face à des échanges économiques. Mais il y a d'autres aspects de l'économie qu'il faudrait tester avec plus de moyens, qui sont les phénomènes de coordination, par exemple, le fait que les gens convergent vers des décisions sans communiquer ensemble. Et pour voir les mécanismes de coordination dans le cerveau, il faudrait synchroniser plusieurs sujets sur une même tâche, sur différents scanners. Ça serait éventuellement intéressant. Il y a peu de choses qui ont été faites sur ces points-là pour l'instant. Ça a des limites évidentes. De toute façon, ça ne vise qu'à comprendre des mécanismes infra-individuels de prise de décision qui peuvent avoir des enjeux collectifs. Mais ça ne remplace pas l'étude des groupes. Ce n'est pas l'étude des groupes. C'est l'étude de phénomènes biologiques, neurobiologiques en l'occurrence, qui sous-tendent des comportements individuels qui peuvent avoir des conséquences collectives. Voilà. Il y a sûrement d'autres questions avant que je m'en aille. Non, bah écoutez, merci pour votre attention et bon courage pour l'année prochaine avec les banques centrales.